Argva le terrible. Argva monta au sommet de son observatoire, les regardant à travers son télescope géant. Il eut, en un instant, la planète Terre sous son œil scrutateur. Argva était âgé de 150 ans, comme ils disent sur la planète Terre, et il était juste dans la fleur de l'âge. Bien qu'il vivait dans la principale ville de Mars, Ulfeut, aucune ville ne le revendiquait comme sien. Parmi les Martiens, Argva était appelé le Martien. Il était le couronnement de la pensée martienne, le sommet de son évolution intellectuelle. Il était le résumé de l'aspiration d'une race. Son intelligence était une fusion, amplifiée mille fois, des intelligences de Shakespeare, Newton, Euclide, et disons, Mosé et Léonard de Vinci, de la planète Terre. L'équivalent d'ex homo, chez les Martiens c'était Argva. L'équivalent chez les Martiens de Messis était Argva. Pendant 135 ans il avait jailli de ce suprême cerveau des inventions, des poèmes, des visions et de nouvelles harmonies construites sur les débris d'esprits moins élevés. Ces idées avaient révolutionné la vie sur la planète. Ulfeut était une ville de merveilles, comme l'était Tixri, Pultum et Pranfar. Ces merveilles étaient nées du cerveau foisonnant d'Argva. La vie sur Mars avait été dure dès le début. La nature était chiche et l'homme s'était développé tôt. Il avait dû développer et perpétuer rapidement toutes ses capacités latentes pour survivre à la menace de l'ennemi commun, la nature. Comme conséquence, il n'y avait maintenant qu'une seule race. La nationalité était un concept inconnu, même s'il y avait des teints de peau différents à différents endroits de la planète. Une peur commune avait fusionné leurs instincts. De cette fusion précoce était née une race superbe de géants, tant au physique qu'à l'intelligence. Une peur commune avait forgé une merveilleuse civilisation. Leur conscience avait un niveau de faculté, qui pour nous serait supernaturel. Les lois intellectuelles et physiques connues des Tyriens, avaient été dépassées par eux des milliers d'années avant les temps présents. Ce qui échappe à la compréhension des Tyriens, est pour eux lieu commun. Argva en 135 ans avait ajouté les miracles aux miracles, les merveilles aux merveilles, transformant et réadaptant sans cesse, les vies des géants de cette planète. Mais son poème scientifique suprême était encore à réaliser. Son acte prodigieux était encore à faire. Il allait faire sous les propres yeux de ses compagnons, dit-il, ce qui jusqu'ici avait été seulement en le pouvoir d'Augé de le réaliser. Augé est la formule algébrique martienne pour nommer l'inconnaissable et l'indicible être. Les Martiens reconnaissaient l'existence de cette entité à l'origine de tous les phénomènes, et l'exprimaient algébriquement par Augé. Les 25 millions d'habitants de Mars, les Martiens mettaient à mort avec une drogue qui provoquait de beaux rêves tous les malades, les chétifs et les nouveau-nés malportants, la plus simple pitié ne les concernait qu'à peine, avaient vécu donc dans une situation d'attente proche de l'extase depuis 3 ans, depuis le jour où Argva avait annoncé son intention de faire ce que, comme il le disait, serait à la fois un geste de pouvoir suprême, et de miséricorde suprême. Et les Martiens parlaient maintenant de cela comme l'apothéose à venir du génie d'Argva. Argva monta au sommet de son observatoire, et regarda à travers son télescope. C'était un géant même pour un Martien. D'une taille de près de 3 mètres, son visage était d'un rouge cuivré profond dans lequel brûlaient deux mondes, deux immenses soleils noirs. Sa tête était surmontée d'une couronne de cheveux d'un noir de corbeau. Son visage était une Venise de sillons, de lignes et de rides. Les Martiens disaient que le visage d'Argva était une carte de la planète, qui est, effectivement, une Venise avec 40 000 canaux. La nuit était éclatante. La terre brillait au nord-est, un point pourpre scintillant. Argva s'était, grâce à la puissance de son monstrueux télescope, fait maître des mondes. Il avait une longueur de 600 mètres, et la lentille avait 152 mètres de diamètre. Son pouvoir de grossissement était au-delà de toute imagination terrienne. On n'avait qu'à regarder à travers, et le reste était silence et effroi. Il montrait les planètes de notre système sidéral si proches des yeux, qu'on ne pouvait voir en même temps que des petites parties d'elles. Il fallut à Argva des années avant d'avoir observé tout Jupiter. Il avait découvert que toutes les planètes étaient inhabitées, sauf la Terre et Saturne. Mais la Terre était le sujet d'études particuliers d'Argva. Il était le maître de cette planète. Depuis 40 années, ses yeux et son cerveau conjointement, avec son inquiétant instrument, avaient disséqué la vie des êtres sur la planète voisine. Le drame de la vie sur la petite lumière pourpre loin, était plus familier à Argva qu'à n'importe quel terrien. Il était l'espion sans trêve de l'espace. Il avait réfléchi pendant des années sur le phénomène de la vie sur Terre. Ses essais et notes remplissaient des centaines de volumes. Ses livres, avec les films de la vie sur Terre, qui étaient projetés sur des écrans géants de granit, étaient les contes de fées de Mars. Ces images animées, l'invention d'Argva, étaient gravées directement du télescope au moyen d'un merveilleux instrument, le Flugong. Les premières images animées de la Terre, le cinématographe lui-même avait été une source d'amusement pour les Martiens des centaines d'années avant l'époque actuelle, étaient apparues à peu près à l'époque de la guerre civile américaine. Chaque événement sur la planète depuis le bombardement de Fort Saint-Thé jusqu'au naufrage du Titanic, par quelle formidable chance, le télescope d'Argva était dirigé juste sur cette partie de la Terre cette nuit-là, était vu et connu en détail par les Martiens. Au lieu d'agir, les Martiens faisaient face à la réalité. Les guerres et les accidents étant difficilement compréhensibles pour les Martiens, ces images étaient pour eux une source d'étonnement inépuisable et d'horreur fascinante. Les films étaient conservés pour les générations futures, et étaient évalués bien au-dessus de toutes les toiles sur Terre de Da Vinci et de Rembrandt. La vie à Tokyo, Berlin, Tombouctou, Canton et Paris était la propriété intellectuelle commune des Martiens. Ils ne comprenaient rien aux mouvements insensés des foules, et la bizarrerie des villes de la Terre était pour eux follement passionnante. La monstrueuse étrangeté de Londres, par exemple, les glaçait d'un frisson d'indicible et délicieuse horreur. Alors qu'Argva regardait à travers son télescope, cette nuit-là la lentille embrassa cette partie de la Terre appelée New York. Le diamètre de la lentille couvrait juste la grande métropole. Il regarda la ville pendant une heure. « Test positif », grommela-t-il, et son visage étincela d'un mépris prométhéen. Le grand événement qu'il avait promis aux Martiens, était près de son accomplissement. « Avez-vous décidé ?» Argva leva le regard et vit, se tenant derrière lui son disciple le plus célèbre, son aimé Astar, Astar le Magnifique comme on l'appelait parmi les Martiens. Il ressemblait suffisamment à Argva pour pouvoir être son fils, sauf que ses cheveux étaient d'un or roux. Un terrien aurait dit qu'il était l'incarnation de l'homme de Vitruve de Da Vinci. Il était âgé de 15 années martiennes, ce qui sur la Terre lui aurait équivalu à la trentaine. Ses inventions et découvertes avaient déjà fait de lui un immortel. La plus utile de ses inventions était un instrument au moyen duquel on pouvait amener la lumière de Deimos et de Phobos, les deux lunes de Mars, sur n'importe quel point de Mars, écartant ainsi la nécessité de toute forme de lumière artificielle dans les rues et les maisons. Une autre sublime invention d'Astar, fut l'établissement au moyen de la télépathie, depuis longtemps une banalité psychique sur la planète, d'un langage commun entre les habitants de Mars et de Saturne. Il lui était aussi possible d'évoquer des êtres des mondes invisibles de la sixième, et de la septième dimension, la quatrième et la cinquième dimension ayant, était depuis longtemps explorée par de précédents scientifiques. J'ai pris ma décision, répondit Argva. Vous connaissez toutes mes notes sur ce point nécrosé bien connu, indiquant à Star New York à travers le télescope. Ces gens, si ce sont bien des gens, ou seulement une variété de termites dégénérés, comme je le crois fermement, sont totalement dénués de toute forme d'intelligence. Dans cette ville en particulier, toute forme de vie semble dénuée de raison ou d'imagination. Si, comme nous croyons, nous avons découvert un cerveau rudimentaire parmi les habitants de ce coin de terre posant son doigt sur la région des gorilles en Afrique centrale sur un énorme globe terrestre, il n'en reste aucune trace, quand nous nous tournons vers cette ville. Observez les singeries de ceux qui montent dans ces immenses tours, observez leurs mouvements, observez leurs gestes. Ils paraissent malades au-delà de tout espoir. Leur manière de vivre, maître, aussi, démontrerait une absence totale d'intelligence. Des myriades semblent vivre dans des trous, ou des étagères dans lesquelles elles se traînent et émergent mécaniquement, alors que quelques-uns ont construit des châteaux qui ressemblent aux nôtres. Ce petit nombre semble vivre de l'autre nuée, littéralement les mangeant vivants, les suçant jusqu'à la moelle. Et la stupidité de ces orques qui consentent à être la nourriture de ce petit nombre. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'égal à ça? Chez eux, la partie est plus importante que le tout. Ils n'ont même jamais vu nos signaux, dit Argva. Avec quelle rapidité les Saturniens nous ont répondu. Surtir des insectes, tire, le nom martien pour la Terre, en tout cas ceux dans cette ville en particulier passent leur vie à ériger de grands tours puis à les démolir. Ils semblent incapables de regarder vers les cimes. Nous n'avons jamais vu leurs yeux. Pas pire, cependant, après tout, que le reste de Tyr, répliqua Astar. Un point m'a, néanmoins, toujours plus attiré que n'importe quel autre, car ici il y a des signes d'ordre, et même une sorte de sens de la beauté. Astar posa sa main sur le point vert de la carte qui sur la Terre est connu comme Paris. Le seul signe d'intelligence sur la planète en dehors de Teltex, désignant la région des gorilles en Afrique centrale, dit Argva. Mais comment expliquer ça? Argva traversa la pièce, suivi par Astar. Ils entrèrent dans une vaste pièce, la salle de cinématographe privée du grand Argva. Il projeta sur la toile, en faisant un geste dans l'air, le spectacle totalement incompréhensible du siège de Paris et les crimes de la commune. Nos animaux sont plus intelligents que ces termites meurtrières ou protozoaires sanguinaires, ou quoi qu'ils soient, grommela Astar. Et ils ne sont jamais dégoûtés du sang et de la mort là-bas, n'est-ce pas? Dit Argva, et sur le vaste écran, par un autre mouvement de la main, il afficha le carnage du siège de la commune, et des scènes de la guerre des Balkans. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Quel est leur objectif en vivant de cette façon? Demanda Astar alors que la farce dramatique de l'Ulaburga commençait. Regardez avec quelle monstrueuse délectation et satisfaction! Ils découpent les entrailles des autres et piétinent les cerveaux écrasés des uns et des autres. Et c'est un sport, je me le demande, quelque chose comme nos grands jeux, mais sous une forme primitive. Et regardez comment cette chose avec une croix géante sur sa poitrine, est en train de mutiler cette autre chose, qui a un croissant suspendu à son cou. Chez les Martiens, les scènes de la guerre des Balkans, au même titre que le massacre de Kissinef, étaient les plus applaudis dans leur salle de cinématographe. Tous les esprits spéculaient sur le sens des charivaris fascinants sur Tyr. Personne n'était arrivé à une quelconque réponse satisfaisante. Dans les grands collèges d'études, chaque hypothèse avait été envisagée, mais, comme Argva et Astar, les esprits érudits n'avaient pas été capables d'arriver à quelque explication. Ils avaient par les moyens de la télépathie découvert des choses sur Saturne qui les avaient émerveillés, sur la Terre ils avaient découvert des choses, qui ou bien les déconcertait ou bien les plongeait dans des paroxysmes de fou rire. Cette petite tache pourpre appelée Tyr, était-ce un asile de foot du monde de la troisième dimension, ou quelque mauvais cancer de l'espace, ou une plaisanterie inventée par Roger? L'incomparable spectacle de la Terre était une source d'enchantement permanent pour les Martiens, qu'ils le regardaient à travers un télescope, ou sur l'extraordinaire cinématographe, mais au moment où l'observateur martien saisissait les actions d'un Ril, non martien pour terrien, c'était alors la perplexité, le paradoxe, le mystère, l'horreur ou le fou rire. Et le bruit courait que le grand événement promis par Argva avait quelque chose à voir avec Tyr, et le destin du fol insecte Ril. Le 20e jour après le colloque entre Argva et Estar, les Martiens ne travaillaient pas. C'était le jour du grand événement astral. Des télescopes de tout modèle imaginable étaient en service et ceux avec la liaison cinématographique attendaient le signal d'Argva depuis son observatoire. La nuit tombe, une nuit étoilée et d'immensité brillante. Jamais la Terre n'avait brillé d'un tel éclat. Ses rayons pourpres avançaient dans l'espace comme des épées hurlantes. C'était le dernier jour de l'humanité, et Argva le Tout-Puissant avait décrété sa mort à minuit heure de mars, à un minuit qui correspondrait à 11h à New York City. Et alors que la planète Tyr tournait sur son axe et présenterait son visage au soleil 11h, sonnerait le glas de la sentence du meurtrier, fou et stupide Ril. Depuis des années Argva avait réfléchi à ce geste de pitié. Les moyens de l'accomplir étaient bien sûr particulièrement simples pour un martien, et pour Argva en particulier. Des forces connues par ce géant dans le monde de la quatrième et la cinquième dimension, il y avait une matière, Baal, qui une fois dirigée dans une direction donnée au moyen de dispositifs de propulsion, que seul Argva pouvait contrôler, électrocuterait, pour ainsi dire, toutes les formes de vie qu'elle rencontrerait. Elle transperçait les ondes éthériques avec la même facilité que les éclairs électriques traversaient l'atmosphère de la Terre. Au moment de l'euthanasie, cette matière, plus puissante que la loi de la gravité, une loi dont les Martiens s'étaient affranchis 50 000 ans avant la naissance d'Argva, paralysait et pétrifiait sa cible. Le plan d'Argva était d'électrocuter l'humanité sur la Terre, la transformant en statues et les embaumant en même temps. La brutale pétrification du Ril sur Tyr, et l'ouverture de ce vaste musée au regard de ses compagnons martiens pour une période de 50 ans, après laquelle, avec une subtile substance connue comme Phi, il décomposerait aussi brutalement toute la foule en gaz et matière inorganique, voilà ce qu'a Argva, l'omnipotent et miséricordieux et disons de la cinquième dimension, se proposait cette nuit. Et l'événement, n'est-il pas enregistré sur les films du cinématographe dans les palais de plaisir de Mars? Le piège en pleine lumière. Cette illusion de Ril pétrifié. Cet éternel lendemain incréé des terriens. Ce territoire de mannequin attrapé dans l'acte de vivre par le geste d'un dieu scientiste. Ces 2 billions de buveurs d'air, qui ne boiront plus une once d'air. Les rêves accumulés et entassés du terrien interrompus à jamais dans leur accomplissement. Cette tragique ironie décrétée seulement à une distance de 50 millions de miles. Ces cavaliers souriants. Ces massacres absurdes. La vie figée dans ses cellules, l'agent de change pétrifié et condamné pendant 50 ans à regarder les yeux grands ouverts le cours de Standard-Oil. Le dévot dont les genoux porteront le calice jusqu'à la lit, et dont les yeux doivent pour toujours être rivés sur le symbole de son dieu impotent. 5 millions de piétons dans New York, Paris, Berlin, Londres, Tokyo et Calcutta qui ne verront jamais la fin de leur trajet. 1 million de soldats en tenue de parade en France, Allemagne, Italie, Angleterre, Japon et West Point transformés en automates, soldats de plomb que les sous-capis correront. Les prostituées qui ne gagneront jamais ce dollar. L'intermédiaire millionnaire congelé dans le geste d'ordonner une augmentation du prix du bœuf, aussi impuissant maintenant que le socialiste assis ici à son bureau, sa fulmination à jamais figée dans son cerveau. Chaque moment donné dans le temps, écrivit une fois Argva dans une de ses belles études métaphysiques, est l'incarnation du temps lui-même, parce que le seul point dans le temps qui existe réellement est l'instant, le moment présent. Et c'est en vertu de cette profonde vérité, que la vie sur la planète Terre, la vie de Ril sur Tyr, est visible sur les effrayantes mais fascinantes images vues à travers les télescopes, et les films du cinématographe sur Mars. Le terrien dans ses gestes et ses attitudes pétrifiées, illustre parfaitement son évolution, telle qu'elle fut, et pour Argva l'omnipotent et miséricordieux, les Ril lui sont redevables de leur avoir épargné le cycle de leur souffrance. C'est ainsi que Ril l'insignifiant, Ril le stupide, devint Ril le merveilleux, Ril le magnifique. Fin.